Chapitre 7. Campagne de Chine, traversée de Toulon à Pékin, alerte à bord, passage de la ligne, le cap. Quand on se fut installé commodément pour la traversée, les deux enfants rappelèrent à M. Frédéric sa promesse. Il s'empressa de satisfaire à leur désir et il reprit son récit à l'échec subi par les troupes alliées au mois de juin 1858 devant les forts construits dans le golfe de Pécheli. L'honneur de notre drapeau, dit-il, étant engagé, l'expédition de Chine fut décidée. En peu de temps, une vaillante petite armée, composée en partie de volontaires, fut prête à s'embarquer. Elle était placée sous le commandement du général de division Cousin Montauban, officier d'une valeur éprouvée qui ne pouvait manquer de conduire nos soldats à la victoire. Le commandant en chef avait sous ses ordres le général Jamin, officier distingué et instruit, possédant toutes les qualités nécessaires pour les fonctions de commandant en second, et le général Collineau, sorti de la pépinière d'Afrique et qui s'était signalé d'une manière si brillante à l'assaut de Malakoff. Une partie de la flotte partit le 15 décembre et prit la route du Cap. La ville de Shanghai avait été choisie comme quartier général provisoire des troupes anglo-françaises. C'est là que devaient se rendre nos bâtiments. Mais le commandant en chef ne quitta Toulon que le 15 janvier. Il prit la route de Suez avec son état-major et arriva à Shanghai le 10 mars 1860, 3 mois avant le corps expéditionnaire. La frégate l'Impératrice Eugénie, sur laquelle j'étais embarqué, ne quitta Toulon que le 19 mai. Le voyage fut heureux pendant plusieurs jours, mais le 28, il arriva à bord un incident qui aurait pu avoir des suites fatales. Vers 2 heures du matin, je fus réveillé par le bruit du tambour et le cri sinistre « Tous les hommes au poste de combat !» Un timonier dont l'esprit était encore alourdi par le sommeil me dit qu'une grande voie d'eau s'était déclarée, que toutes les pompes étaient déjà en mouvement et que la frégate ne pouvait plus avancer. Nous devions être alors à 170 lieues des îles du Cap-Vert, à 70 ou 80 lieues de Tenerife, et par conséquent loin de tout secours. Je courus à l'entrée du bâtiment et j'acquis bientôt la certitude que c'était une nouvelle fosse. Je descendis dans la batterie et j'appris que nous étions menacés non par l'eau, mais par le feu. La fermentation et le frottement avaient enflammé des rouleaux de coton dans le magasin du faux pont. Le feu, se communiquant, était sur le point d'envahir le compartiment voisin, rempli d'étoupes et d'essence de térébenthine. Heureusement, l'air manquait en cet endroit et, en peu de temps, nous fûmes maîtres de l'incendie. Une heure après, la panique avait cessé et ceux qui n'étaient pas de service se retiraient. Le 7 juin, nous passâmes la ligne et nous recommençâmes cette fête si souvent célébrée dont la conclusion est toujours la même, arroser son passage avec de l'argent. Les néophytes étaient assez nombreux à bord. La cérémonie se prolongea jusqu'à la nuit à la satisfaction générale. Le commandant, M. de Lapelin, invita les officiers à dîner et l'équipage reçut une double ration. C'est vous dire que toute la soirée, les matelots témoignèrent leur joie par des chants et des danses de circonstances. L'étiquette avait été mise de côté à la table même du commandant. Aussi le dîner, qui ne laissait rien à désirer sous le rapport des mets exquis et du choix des vins, fut-il des plus gais. Les éclats de rire se mêlaient au bruit de la musique qui, pendant le repas, ne cessa de se faire entendre et, après de nombreux toasts portés à l'empereur, à la famille impériale, au commandant de la frégate, aux Chinois eux-mêmes, nous allâmes applaudir nos braves matelots qui, pour terminer la fête, donnèrent une grande représentation avec des intermèdes de chansons comiques. Nous étions au mois de juillet, et c'était la saison d'hiver. Cela vous paraît étrange, n'est-ce pas? Il en était cependant ainsi, et les cimes des monts que nous apercevions de notre bâtiment nous apparaissaient couverts de neige. « Je n'en suis pas étonné, » dit Ludovic. « Sans être très fort en cosmographie, j'en sais assez pour comprendre que, dans l'hémisphère du sud, le contraire de ce qui se passe dans le nord doit avoir lieu pour les saisons. Cela tient à la position de la Terre par rapport au soleil. » « Très bien, » répartit M. Frédéric. « Je vois que vous pouvez vous rendre compte des tempêtes qui nous assaillirent à cette époque dans ces parages. Notre frégate mouilla le dimanche 3 juillet en rade de Simon's Bay. Comme elle devait y rester quelques jours, je profitais de ce temps d'arrêt pour aller voir au Cap de bons amis séparés de moi depuis plusieurs années. La ville du Cap est bâtie au pied de la montagne de la Table, dont la configuration est digne de remarque. Le sommet est terminé par un immense plateau d'une étendue de plusieurs kilomètres, dont les flancs, de 100 mètres de hauteur environ, reposent à angle droit sur la base de la montagne inférieure. L'aspect de cette masse est des plus tristes. Sur le sommet, une couche de neige. Sur les pentes, des bruyères étiolées, des arbres rabougris qui se détachent sur le fond rougeâtre de la terre. Sans m'arrêter à vous parler de la rade, où le service est fait par des Malais, ni du climat qui est admirable, je vous conduirai tout de suite dans l'intérieur de la cité anglaise. Je fus frappé de la propreté des rues, de l'eau pure qui y coule, du luxe des magasins, aussi beaux que ceux de Paris et de Londres, et surtout d'un certain nombre d'élégantes voitures dans lesquelles étaient étendus des nababs de l'Inde, précédés d'esclaves noirs, aux jambes et aux bras nus cerclés d'or. C'est vraiment une ville charmante. La plupart des maisons n'ont qu'un rez-de-chaussée, parfois un étage, mais toutes rachètent le manque d'élévation par la superficie. Simples et propres à l'extérieur, elles renferment à l'intérieur tout ce que le luxe asiatique et le confort anglais ont pu inventer de merveilleux. La population, fort mélangée, ainsi que je pus le voir, s'élève de 36 à 40 000 habitants. Les édifices religieux sont très multipliés à cause de la diversité des cultes. Les environs du Cap ont un cachet particulier. Sur les collines, les endroits incultes sont tapissés de hautes bruyères. Les parties cultivées sont couvertes de vignes et d'arbres fruitiers, dont la plupart viennent d'Europe. Ces vignes fournissent le vin de Constance, épais et sucré. Celui dit du Cap est fabriqué à plusieurs lieux plus loin. Il n'est pas sans analogie avec le Madère. Dans les prairies immenses que bordent les ruisseaux, paissent des chevaux, des mulets et des troupeaux considérables de bœufs, dont on se sert pour labourer la terre, porter les récoltes et traîner les fardeaux. Ces bœufs, l'une des richesses du pays, se distinguent par la longueur démesurée de leurs cornes. Quelques-unes dépassent un mètre. Les mulets, de la race zébrée, ont la plupart des crinières tombantes qui leur donnent un air sauvage. Ce sont d'excellentes bêtes, fortes et courageuses. Le général Jamin fut reçu d'une manière splendide par le gouverneur anglais et aussi le consul suédois. Le bal qui lui fut donné par le consul coûta plus de 15 000 francs. Ceci s'explique par le prix élevé auquel tout se vend dans cette ville. Aussi, nos appointements ne pouvaient guère s'accorder avec les dépenses que nous étions obligés de faire. Et comme, du reste, le temps était affreux, nous désirions assez ne pas prolonger notre séjour sur la côte africaine. L'ordre du départ ne tarda pas à être donné et nous nous dirigeâmes sur Hong Kong. Nous aurions voulu rencontrer l'océan Indien et entrer dans les mers de Chine par le détroit de Malacca. Par cette voie, nous aurions gagné quelques jours, mais dépensé plus de charbon. La question d'économie fut en partie la cause du changement d'itinéraire. Notre traversée s'effectua d'une manière heureuse. La santé du personnel ne laissait rien à désirer. Nous vîmes successivement arriver après nous les bâtiments de la flotte. Le dernier entra dans le port le 21 mai 1860. Monsieur Frédéric s'arrêta à ces mots. Le bateau approchait du Conquet. Les deux ou trois matelots qui le montaient abattirent les voiles et un instant après, les enfants embrassaient Madame de Kerdoret. Inutile d'ajouter qu'ils ne se couchèrent pas sans se promettre de mettre de nouveau et le plus tôt possible à contribution la complaisance de l'excellent neveu de leur vieille amie.